France Culture.
Talmudique. C'est arrivé, et tout cela peut arriver de nouveau, écrivait Primo Levi au début des naufragés et des rescapés. Profonde lucidité qui balaie les illusions d'un progrès moral irréversible. Les digues cèdent, et c'est l'idée même d'humanité qui se fissure. Le XXe siècle et le premier quart du XXIe siècle ont vu remonter des gouffres que l'on croyait colmatés. Massacres, génocides, crimes de guerre. Comment ausculter ce retour du sanglant, sans moralisme ni phare, en essayant de démonter les engrenages de la déshumanisation ordinaire? Et s'il fallait avancer cette hypothèse troublante, que la possibilité du pire loge en chacun de nous, que faire alors? Désespérer de l'humain ou chercher une exigence plus ferme, une clarté qui oblige? Ce sont là les questions que pose François Racheline dans son nouvel essai paru aux éditions Hermann, intitulé « Inhumanité » et sous-titré « Que faire face aux massacres et aux génocides ?» Un essai court et très dense qui exprime une réflexion construite dans le temps long et inconfortable du questionnement en appréhendant ces violences à l'échelle du vivant, comme nous y invitait Claude Lévi-Strauss dans une de ses dernières analyses sur l'évolution de l'humanisme au XXIe siècle, un changement de focal indispensable pour s'extraire de ces réalités qui écrasent, regarder en face ce que nous sommes et rechercher les voies d'une conception commune de l'humanité. François Racheline, bonjour.
Bonjour, Magalin Oclin.
François Racheline, vous êtes actuellement vice-président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, que votre père avait fondé. Vous avez été professeur d'économie à l'école centrale, à Sciences Po et à Paris 10. On vous doit des ouvrages d'économie, d'histoire, d'art, de philosophie, d'herméneutique biblique et 5 romans. Avec le présent essai, c'est l'actualité que nous rencontrons. On y sent une urgence et un engagement éthique, à la fois une inquiétude mais aussi un espoir. Le vers de Victor Hugo placé en exergue en témoigne, François Racheline.
Le vers de Victor Hugo, je ne le connais pas par cœur, mais je vais le retrouver facilement en tête du livre. Dans la nuit la plus noire, une lueur suffit pour défier les ténèbres. J'adhère à cette vision, qui n'est pas facile à appliquer.
C'est une vision qui n'est pas facile à appliquer, et votre livre parle de l'inhumanité qui nous guette, mais pour comprendre à la fois le terme et la réalité qu'il recouvre, il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle humanité, un terme qui est au cœur d'une dialectique de l'identité et de la différence, de la mêmeté et de l'altérité, François Racheline.
Oui, alors ce que vous venez de dire est évidemment très important parce que on a un peu tendance à considérer que être humain, le mot humain passe un peu à la trappe. Oui, bon, c'est absolument évident. Et en réalité, lorsque on regarde ce que signifie le mot humain, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça à définir. Un philosophe, Michel Arr, disait, mais on dit jamais, par exemple, un animal canin ou un animal félin. On le dit, bien sûr, de manière très générale. Mais on parle des êtres humains. Or, si on plonge dans notre humanité, ça renvoie à deux idées. La première, qui est l'humanité dans son ensemble. Et l'autre, qui est la spécificité, ce qui véritablement nous singularise. Et ce qui nous singularise, ça a été longtemps l'objet de réflexions philosophiques. Soit c'était le rire dont parlait Rabelais, soit c'était la bonté ou la méchanceté selon qu'on était du côté de Saint-Augustin ou d'autres. Ça pouvait être aussi le fait de penser, c'est-à-dire le cartésianisme. Et puis aujourd'hui, on est devenu beaucoup plus pragmatique. Finalement, on dit que l'humain, c'est ce qui peut être détruit. Un petit peu comme la nature, si vous voulez. C'est assez dans l'ordre des choses. Et on se rend compte que dans l'humain, il y a aussi peut-être quelque chose qui n'est pas très humain et qu'on est double. Et c'est ce qui fait que, je crois, il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur cette dualité.
Cette dualité, on va y revenir. Mais avant, vous insistez sur le fait qu'il y a une espèce commune, en l'occurrence l'Homo sapiens, et qui nous distingue selon des variations phénotypiques et culturelles. Et pourtant, nous nous enfermons dans des bulles identitaires, dans une forme de clôture d'où résultent des rejets et des exclusions qui sont prétextes à s'autoriser à la violence envers ce prochain, qui est nous-mêmes, selon les mots de Lévinas que vous citez. Quelle est la source de ce repli identitaire, François Rachlin ?
Alors, si on veut véritablement donner une cause initiale, on peut remonter très loin, on peut disserter assez longuement. Je crois que, dans un travail précédent, j'avais recherché quand était née la préoccupation sur l'identité. Alors, je dispose du grand Larousse Littré de 1875, et donc, regardez, le mot identité, il n'y est jamais question, sur les deux pages qui y sont consacrées, il n'y est pas question des êtres humains. Il est question des mathématiques, par exemple. L'identité, c'est quelque chose qui a commencé à s'emparer de la société après la Première Guerre mondiale, donc vers 1918-1920, et qui aujourd'hui est devenu une espèce d'obsession. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui est sous-jacent dans votre question, mais c'est ce que j'entends, en tout cas dans ce que vous dites, c'est qu'il y a, me semble-t-il, une confusion extraordinairement dangereuse aujourd'hui, née peut-être avec le wokisme et avec tous ces mouvements, qui consiste à confondre l'identité, ce qu'on est, ce que chacun d'entre nous est, avec nos racines. Tous les auditeurs qui nous entendent ont des racines différentes. Vous-même et moi, nous avons des racines différentes. Mais notre identité ne peut pas se calquer sur ces racines, même si ces racines sont importantes, même si pour certains, elles sont déterminantes. Pour d'autres, elles sont secondaires. C'est très variable sur nos individus. Mais ce qui me paraît être la caractéristique numéro un d'identité, ce n'est pas mon origine qui m'est extérieure, c'est ce que j'ai fait de ma vie. Que je l'ai fait comme je l'entendais, que j'ai réussi ou que j'ai échoué, mais c'est ce qui fait que j'ai agi dans un sens et pas dans un autre. Alors dans le livre, je cite une famille allemande qui a eu quatre fils, le quatrième s'appelait Robert, c'était le cadet, et les trois premiers, on n'en a pas beaucoup entendu parler, et ce quatrième s'appelle Robert Schumann. Si véritablement nous pouvions nous réduire à nos origines et à nos racines, alors ils seraient tous les quatre des Schumann. C'est ce qu'exprimait aussi d'une manière aussi convaincante, je crois, Jean-Paul Sartre à propos de Paul Valéry. Sartre disait « Paul Valéry est un intellectuel petit bourgeois ». Mais tout intellectuel petit bourgeois n'est pas Paul Valéry. Donc, je crois que notre époque pense que tout le monde peut être Valéry ou que tout le monde peut être Schumann. Je crois que ceci est très dommageable.
Alors cette singularité et cette dimension du groupe vous permet d'introduire un concept, le segmentarisme, vous forgez le mot, un terme qui vous permet de mieux comprendre ce qu'on appelle le wokisme et que, d'une certaine manière, vous critiquez avant de nous permettre de comprendre ce qu'est l'humanité et qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est l'inhumanité, François Rachlin.
Oui, alors je pense que lorsque vous évoquez le wokisme à l'instant, on évoque des gens qui considèrent que les individus ont une identité, comme on le disait précédemment, qui est fonction de leur naissance, ou la couleur de leur peau, leur religion, leur culture, tout ce que vous voulez. Bon. C'est une société dans laquelle, pour prendre une image, c'est une mosaïque ou un puzzle, et puis on voit bien les coutures. Et alors, si jamais vous êtes blanc, vous ne pouvez pas jouer le rôle d'un noir, par exemple, dans Shakespeare. C'est pas possible, vous ne pouvez pas jouer Macbeth. Pourquoi ? Parce que vous êtes blanc. C'est une stupidité totale, absolue. Donc ça segmente la société, c'est-à-dire que la société est vue comme une mosaïque, et à l'intérieur de chacun de ces éléments de la mosaïque, personne ne peut en sortir. Pour moi, c'est un contresens absolu sur ce que c'est que l'humanité. Une chose m'a toujours frappé, c'est que les archéologues sont capables, sur un squelette, de dire « Ah, mais ça, c'est un hominidé. Ça, c'est pas un chien, c'est pas un chameau. » Donc, on reconnaît l'unité humaine quand elle est sous forme de squelette. Mais lorsqu'elle est vivante, on croit encore qu'il y a des différences. Et alors, il y a effectivement des différences. Tous les êtres humains, lorsqu'on les regarde, sont totalement différents les uns des autres. Il y en a qui se ressemblent, il y en a qui sont très dissemblables. Mais c'est justement parce que vous les regardez avec une perception qui n'est pas analytique, que vous imaginez qu'il y a des hiérarchies. Et plus vous hiérarchisez, plus vous avez tendance à discriminer, plus vous discriminez, plus vous avez tendance à isoler, et plus vous isolez, vous avez tendance, ou vous pouvez terminer par éliminer. Or, il me semble, et je crois que c'est significatif de notre époque, il me semble qu'il y a un retour là de ce qu'on appelait avant les États ou les races. la science a démontré qu'il y a une seule espèce. Et le fait que dans une espèce il y ait des diversités, et qu'il y ait des différences, ne remet pas en cause le principe. Dans le livre, j'évoque quelque chose que tout le monde peut comprendre et que tout le monde connaît. On regarde le soleil. Bon, tout le monde dit, il se couche, il se lève. Ça, c'est ce qu'on appellerait une réalité perçue. C'est ce que je perçois. Mais si je vais dans un livre de cosmogonie ou d'astronomie, je vais bien voir que je me trompe, qu'en réalité, le soleil ne se lève pas, ne se couche pas, c'est la Terre qui tourne autour de lui. Bon. Donc, j'acquiers non plus une réalité perçue, mais une réalité conçue. Je conçois la réalité. Et à ce moment-là, je peux revenir à ce que je perçois, mais ma perception n'est plus une réalité perçue, c'est une réalité conçue. Donc, réalité perçue, abstraction conçue, et on revient. Et on revient à la perception. Moi, ma perception, lorsque je vois des êtres humains, pour moi, ils sont absolument l'expression différente d'une unicité, d'une simple et unique matière.
Que vous appelez justement l'humanité.
Que j'appelle l'humanité.
Et ça, c'est très important, parce que si on ne comprend pas cette identité de chacun dans cette humanité commune, on arrive justement au rejet, à l'exclusion et l'élimination et la violence. Et donc, cette idée de la réalité perçue qui doit être transformée en réalité conçue par la dimension de la recherche, de l'étude, est peut-être justement une façon de dire que, ou de rappeler que c'est l'étude, ce que vous appelez la science aussi dans votre ouvrage, qui permet de sortir des préjugés et des enfermements et d'oublier ce socle commun qu'on appelle l'humanité.
Oui, alors ça, c'est pas une invention de ma part. C'est quelque chose.
Je sais bien, mais vous le soulignez.
Oui, je le souligne parce que il me semble que ça renvoie à la nécessité éducative. Parce que on peut pas laisser les gens dans la nature comme ça dire ah oui il est noir donc il est différent, il est juif il est différent, il est musulman il est différent. Non, pas du tout. Il faut comprendre que ce qui forme notre unité, ce sont précisément nos différences. L'universalisme, qui est une idée à laquelle j'adhère, ne consiste pas à considérer que tous les êtres humains sont absolument identiques. C'est même le contraire. Je ne peux arriver à l'universalisme qu'en partant de moi et en me disant « ils sont comme moi ». Donc je peux universaliser ce que je ressens. Mais si je ne fais pas ça, je segmentarise, comme on l'a dit tout à l'heure.
Je pense aussi à ce texte du Talmud de Sanhédrin 37a qui demande pourquoi Adam, le premier homme, fut créé seul en raison de l'importance de maintenir la paix entre les créatures afin que l'un ne dise pas à l'autre « mon ancêtre est plus grand que le tien ». Je crois que cela mérite commentaire, François Racheline.
Le commentaire est assez évident. C'est-à-dire, il suffit d'entendre ça pour comprendre tout de suite que si on veut remonter jusqu'à l'origine, on ne trouve qu'un seul ancêtre commun. Et donc, s'il y a un seul ancêtre commun, on ne peut pas prétendre avoir des distinctions qui permettent à l'un ou à l'autre, ou à l'une ou à l'autre, de dire je suis mieux, je suis supérieur, etc.
Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que même pour ceux qui pensent en termes de racines, on peut leur montrer que en termes de racines, si on remonte à l'origine de l'origine, on retrouve une non pas des racines différentes, ce qui est souvent convoqué, mais on retrouve une unicité ou une unité qu'on peut appeler justement cette humanité.
Oui, on est d'accord là-dessus, simplement il faut encore accepter qu'on puisse remonter jusqu'à ce mythe que représenterait le premier être humain, et comme vous savez, c'est pas possible.
Oui, mais ce mythe est fait certainement pour que nous puissions penser cette idée, en tout cas, de communauté, d'humanité. Oui. Je crois que c'est là qu'est l'importance de...
Mais là, on parle de l'idée d'humanité au sens de l'ensemble des êtres humains. Il faut pas la confondre avec l'humanité de chacun des êtres humains. Et lorsque, par exemple, on parle de crime contre l'humanité, beaucoup de gens pensent que c'est un crime contre l'ensemble des êtres humains, ce qui n'est pas faux en soi. Mais en réalité, c'est un crime contre chaque être humain, l'humanité de chacun d'entre nous et de chacune d'entre nous. C'est ça qui est en question. Et c'est sur ça que j'ai essayé de travailler dans ce livre.
Nous sommes en train d'entendre la cavatine du 13e quatuor de Beethoven, un des morceaux de musique les plus intimes et les plus profonds de Beethoven, qui invite à l'introspection, et c'est ce que vous faites et nous invitez à faire, François Racheline, pour comprendre les fondements de l'inhumanité qui se trouve, selon vos analyses, en chacun de nous, ce que vous introduisez par la lecture d'un célèbre verset du Deutéronome dont vous faites une très belle lecture renouvelée.
Avant de vous répondre, je voudrais dire que Beethoven est un bon exemple de notre discussion précédente, puisqu'il a écrit un jour au prince Tichnowsky, qui n'était pas n'importe qui à l'époque. Il lui dit « Prince, des princes il y en aura toujours, sous-entendu ça dépend de la naissance, mais il n'y a qu'un seul Beethoven. La singularité elle est là. » Ce verset est un verset qui... Donc je vous cite le verset du Deutéronome auquel vous faites allusion, le 30-19. « J'ai mis en toi ou devant toi, ça dépend des traductions, la vie et la mort, et tu choisiras la vie. » Alors, je pense que c'est un tout petit peu imprécis. Le texte dit bien « J'ai mis en toi » et non pas « devant toi » parce que on peut dire les deux, mais je trouve que c'est plus cohérent de dire « en toi » parce que la suite, on dit en hébreu « natati lefanecha », c'est-à-dire « à l'intérieur de toi ». « J'ai mis à l'intérieur de toi la vie et la mort et tu choisiras bahayim », c'est-à-dire « du côté de la vie » ou « avec la vie », qu'on traduit par « tu choisiras la vie », ce qui n'est pas faux. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ça veut dire que tout être humain, s'il est honnête, s'il recherche en lui, à comprendre ce qui, s'il cherche à comprendre en lui ce qui reste finalement assez étranger ou étrange, il est à même de reconnaître que il y a des moments quand même où il a envie d'exploser. Vous savez, nous tous et nous toutes, on peut dire à un moment donné, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais hors de moi, c'est-à-dire quelque chose est sorti de moi et m'a emporté à être violent. Bon, il y a quelque chose en nous qui est, disons, négatif, il y a quelque chose qui est positif. Alors, j'ai mis en toi la vie et la mort, c'est fort, c'est très fort. Et tu choisiras la vie, ça veut dire que d'abord tu as le choix. Tu peux choisir, mais il faut que tu reconnaisses qu'il y a les deux. Si tu ne reconnais pas qu'il y a les deux, tu es prétentieux, tu crois que tout ce que tu fais, c'est toujours bien. Non. Il y a les deux, et en fait, ça exprime assez bien l'objet de mon livre. C'est accepter qu'à l'intérieur même de ce que nous appelons notre humanité, il y a quelque chose de l'ordre de l'inhumanité, c'est-à-dire du contraire, qui peut nous entraîner n'importe où. Laissez-moi vous citer un exemple qui m'a beaucoup frappé, tout récent, de ce garçon qui s'appelle Jean Pormanov, dont on a vu qu'il est mort sur scène. Bon, il y a des milliers de personnes qui ont assisté à ça. C'était pas particulièrement des monstres, c'était pas des gens, des assassins, mais ils ont assisté à la mort de ce type. Personne n'a dit « mais arrêtez tout de suite !» Arrêtez ça. Ils n'ont pas choisi la vie. Donc, je crois que lorsqu'on est face à ça, d'abord, c'est ce qu'on appelle véritablement un cas de conscience, on doit réfléchir dans ce sens-là, et il est possible de reconnaître qu'on peut être inhumain, et que évidemment, il faut faire tout pour ne pas l'être.
La littérature n'est pas en reste sur cette question. François Racheline, on voit que cette idée de l'inhumanité qui conjoint l'humanité est quelque chose qui a été déjà très prégnant dans l'histoire de la pensée.
Elle traverse l'histoire de la pensée, mais elle n'est pas assumée en tant que telle. Et elle n'est pas assumée aujourd'hui suffisamment. Ce que vous venez de dire, c'est assez bien résumé par Stevenson. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça c'est absolument formidable, parce que là on a vraiment les deux aspects. Et avec l'impossibilité, et c'est ça qui est important, de Jekyll, de maîtriser Hyde. Et Hyde, ça s'écrit H-Y-E, comme Hyde, H-I-D-E,
caché.
En anglais, c'est-à-dire caché, quelque chose qui est caché. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait comprendre et faire comprendre, notamment aux jeunes générations, c'est que nous ne sommes pas d'un bloc. Nous ne sommes pas une unité qui permet de dire « voilà, moi je suis comme ça ». Nous sommes façonnés, notre identité, c'est-à-dire ce que nous allons faire de notre vie, a pour socle l'altérité. Et l'altérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est, évidemment, on n'a pas choisi de naître ici ou là, quand on se développe, quand on est enfant, quand on est adolescent, on ne sait pas très bien qui on est, pourquoi, etc. Tout ça nous est étranger. Puis petit à petit, on en prend conscience. Bon. Cette étrangéité-là, elle aussi a été exploitée par Montaigne, jusqu'à Kafka, et encore aujourd'hui d'autres auteurs. Cette étrangéité-là, il ne faut pas en avoir peur, il faut l'assumer, il faut savoir qu'elle est constitutive de notre être. Il faut, comme on dit, il faut faire avec. Et donc, il faut essayer de ne pas lui donner prise sur l'autre partie, c'est-à-dire sur la partie qui est, disons, du côté du bien, du côté de l'humanité. Et pour ça, je crois qu'il y a un travail qui n'est pas aujourd'hui effectué. Je ne dis pas que ça permettrait d'éliminer les massacres, que ça permettrait d'éliminer les génocides, les crimes contre l'humanité, mais si on peut tenter de les diminuer, il n'y a pas une minute à perdre.
Mais la question, une fois que on a cette lucidité d'être habité par la vie et la mort, par l'humanité et l'inhumanité, que d'ailleurs vous appelez reconnaissance de soi, comment se fait-il que l'on soit souvent, très souvent sourd à cette inhumanité en nous et au mal qu'elle provoque, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif?
Je crois que les êtres humains, ça fait un peu grandiloquent de dire ça, hein, un petit peu aujourd'hui, mais je crois que les êtres humains ont très peur de l'incertitude. Ils cherchent de la certitude, fût-ce parfois au prix de la servitude. On l'a vu beaucoup dans les textes bibliques. Enfin, on était bien en Égypte, on était d'accord, on était dans le servage, mais enfin, on pouvait manger, on pouvait boire. Maintenant, on est dans le désert, qu'est-ce qui va se passer? Et je pense que c'est une métaphore de beaucoup d'autres situations. Et donc, c'est très difficile, évidemment pour un enfant, mais aussi pour un adulte, c'est très difficile d'accepter l'incertitude qui est que je peux basculer d'un côté ou d'un autre. Je peux être entraîné d'un côté ou d'un autre. Vous avez, j'aime beaucoup les évocations bibliques parce qu'elles sont extraordinaires, non seulement métaphoriques, mais philosophiques. Dans l'histoire de Caïn, il n'est pas dit à Caïn qu'il est méchant, etc. On dit que si jamais il s'améliore, il pourra éviter Hatat, qu'on a traduit par péché, qui est plutôt la cible ratée, l'erreur. S'il s'améliore, il pourra l'éviter. C'est tout le projet éducatif est là, il n'y en a pas d'autre. Si on travaille à comprendre, à explorer ce qui est en nous, on pourra éviter, non pas systématiquement, non pas pour tout le monde, non pas tout le temps, mais on pourra diminuer la probabilité de tomber dans l'erreur.
Vous parlez d'éducation et d'éducation au discernement. Mais qu'est-ce que vous diriez, par exemple, si vous étiez ministre de l'Éducation, quel programme d'éducation proposeriez-vous pour arriver, premièrement, à découvrir chacun en soi cette inhumanité et, comme vous le dites, à l'endiguer?
Je ne sais pas si ce serait ce que je dirais si j'étais ministre de l'Éducation, mais il me semble qu'on a essayé beaucoup de choses pour donner une réalité à l'expression « plus jamais ça ». Et le « plus jamais ça » recommence. Vous avez cité au début de cette émission Primo Levi, qui a dit « ça peut recommencer ». Et ça a recommencé, avec les Tutsis, avec les Rohingyas. Je cite les différents massacres qui ont eu lieu au début de mon livre. Alors on a, dans un premier temps, travaillé sur le devoir de mémoire, puis ensuite on est arrivé au travail de mémoire, mais ça marche pas. C'est absolument indispensable de le faire. Il faut surtout ne pas y renoncer. Mais ça ne fonctionne pas. Il y a des systèmes éducatifs qui, finalement, n'évitent pas de produire des monstres. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut changer peut-être l'emplacement de la caméra et que chacune et chacun d'entre nous se saisisse de la question pour ne pas fermer les yeux, pour ne pas être sourd et pour se dire comment est-ce que je peux faire, non pas pour condamner les barbares ou condamner les autres, mais moi-même ne pas tomber là-dedans. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'ai pas de solution clé en main, mais une des premières choses que je crois il faudrait instauré dans le système éducatif, c'est l'acceptation de l'altérité première. Ça, c'est quelque chose d'important. J'en ai parlé avec mes enfants et j'en ai parlé avec mes petits-enfants. Ça marche.
Si vous dites cette phrase dans une classe de personnes qui n'ont pas l'habitude de concepts philosophiques, quel exemple vous donneriez pour cette reconnaissance de l'altérité première?
Les phrases que j'ai sorties tout à l'heure, je ne sais pas ce qui m'a pris. Alors si vous dites « je ne sais pas ce qui m'a pris », c'est qu'il y a votre « je » n'a pas de prise sur un autre « je », sur quelque chose d'autre.
C'est ça l'altérité, l'altérité
oui.
En soi.
Oui.
Pas l'altérité au sens de Lévinas,
non.
L'autre extérieur.
Non, l'altérité en soi, qui d'ailleurs rejoint après l'altérité extérieure, bien entendu. Mais si je me pense, moi, comme construit sur une altérité, je peux supposer que les autres aussi. Alors tout ça est philosophique, on est d'accord.
Oui, ou psychanalytique, parce qu'en fait, on peut dire que l'altérité en soi, c'est ce que Freud découvre dans la dimension, la partie inconsciente de soi.
Oui, absolument. Sauf que même le mot conscience est très difficile. travailler sur la conscience de soi est quelque chose de très difficile, parce que si je vous demande où est votre conscience, vous aurez beaucoup de mal à me répondre.
Oui, je la chercherai.
Vous pouvez la chercher. Oui. C'est pas un concept, c'est pas... Si, c'est un concept, mais c'est pas un réceptacle, c'est pas une forme, c'est pas une chose. Il y a un psychologue américain, Julian James, qui est assez peu connu en France, qui a écrit un magnifique livre sur la naissance de la conscience, et qui dit « c'est une opération ». C'est une opération à partir de la langue.
Vous énoncez un paradoxe important. Vous dites « admettre que nous pouvons nous laisser aller à l'inhumanité constitue peut-être la principale dimension de notre humanité ». Comment ce paradoxe nous permet-il de ne pas désespérer ? Et comment peut-il orienter dans ces temps singulièrement obscurs, François Acheline ?
Je pense que être capable de reconnaître pour soi-même qu'on est capable du pire, c'est le premier moyen de l'éviter. C'est aussi simple que ça. Mais on ne reconnaît pas ça. On dit « je suis d'un bloc ». Moi, c'est moi. Eh bien non, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc je crois que, oui, c'est contre-intuitif. Mais d'abord, le contre-intuitif n'est pas faux. Le contre-intuitif est simplement difficile à accepter. Mais une fois qu'on l'a accepté, qu'on est rentré dedans, on s'aperçoit qu'effectivement, on peut penser un peu, parfois beaucoup, contre soi-même. C'est difficile.
Alors c'est difficile, et justement, vous consacrez plusieurs pages à la situation actuelle dans le monde, cette focale élargie, si on peut dire. Vous en avez parlé avec les Tutsis et d'autres violences terribles. Et vous évoquez longuement le 7 octobre et ses conséquences. Les notions mêmes d'humanité et d'inhumanité ne sont-elles pas mises en échec pour appréhender ce conflit, l'autre n'étant plus que l'ennemi avec qui une lutte à mort est engagée? Comment continuer d'envisager ce conflit à l'échelle du vivant, c'est-à-dire de l'humanité, dans ses interactions avec toute la vie sur Terre, sans renvoyer dos à dos des réalités totalement différentes, ou sembler céder à un biais partisan? Comment, selon vous, peut-on mettre en œuvre, dans ce contexte, l'éthique que vous appelez de vos voeux dans votre ouvrage?
C'est la question la plus difficile qu'on puisse poser, parce que je crois que le 7 octobre, c'est quelque chose qui a marqué une étape. L'étape, c'est la violence et l'inhumanité ne se reconnaissant plus elles-mêmes. C'est-à-dire, ceux qui ont effectué ces violences terribles ne pensaient pas que c'était de la violence. Ils considéraient que c'était absolument normal de déshumaniser les autres. Donc, d'où vient ce sentiment des violeurs et des assassins? Il vient du fait qu'on ne leur a pas appris qu'ils étaient doubles, qu'on ne leur a pas appris qu'il y avait de l'altérité en eux, qu'ils ne leur a pas appris qu'ils devaient... concevoir l'autre, même en étant en désaccord avec lui. Donc je pense que ça ne change pas la position que j'ai. Oui, bien sûr, c'est un argument très fort pour dire « mais regardez, il faut renoncer ». Alors là, je vous rappelle la phrase que vous m'avez fait dire de Victor Hugo au tout début. Il faut une petite lueur pour s'opposer aux ténèbres. Ça, pour moi, ce sont les ténèbres. Et ce ne sont pas les ténèbres parce que ce sont le Hamas qui aurait tué des Juifs. Ce n'est pas ça la question. C'est parce que ce sont des hommes qui ont tué des hommes. Et je voudrais lier à ça une réflexion qui est juste une hypothèse sur la conscience. Mon hypothèse est que l'anonymat ou le masque qu'on met lorsqu'on va tuer est un moyen d'anesthésier la conscience. Je fais en sorte que rien ne hurle en moi pour s'opposer à cet acte, d'autant plus que je deviens anonyme. Et l'anonymat, par exemple, sur les réseaux sociaux, est redoutable de ce point de vue. L'un des principes fondamentaux de la démocratie, et qui remonte très loin, c'est la responsabilité individuelle. Toute personne est responsable de ses actes et ne peut pas être tenue pour responsable des actes d'autrui. Dès lors que vous entrez dans l'anonymat, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui évidemment ne tuent pas les gens, ou que ce soit parce que vous êtes un terroriste et vous mettez un masque et on ne voit pas votre visage, vous effacez la possibilité de recherche d'une responsabilité individuelle et donc vous sapez l'un des grands fondements de la démocratie. Moi, je crois que, en fait, si mon livre se termine par une question, j'en suis heureux, parce que je n'ai pas de réponse toute faite.
Merci François Acheline pour cette passionnante conversation. Je rappelle le titre de votre livre, Inhumanité, sous-titré « Que faire face au massacre et au génocide ». C'est aux éditions Hermann. Merci encore François Acheline.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Françoise Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Valentin Bobinet, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.